Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À l'approche de Noël, le souverain pontife propose aux fidèles le modèle de Joseph qui préfère s'en remettre à Dieu plutôt que d'écouter les voix du doute et de l'orgueil humain. À l'Angélus, le pape François a par ailleurs demandé aux autorités de résoudre le problème des sans-logis. C'est bien sûr la une de ce magazine. Nous parlerons également de la solidarité des évêques africains avec le Soudan du Sud. Et en fin d'émission, nous retrouverons Dominique Lambert, physicien, philosophe et théologien. Le pape François a souhaité aux fidèles un Noël d'espérance, de justice et de fraternité. À l'occasion de la prière de l'Angélus ce dimanche, devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, il a tourné ses pensées vers les familles qui n'ont pas de logement et lancé un appel en faveur de la paix sociale en Italie. Jean-Baptiste Cocagne.
9 mois après l'élection du pape François, le flot ne tarit pas. Les fidèles continuent d'affluer par milliers sur la place Saint-Pierre. Ce dimanche, une banderole a attiré l'attention du Saint-Père. Les pauvres ne peuvent pas attendre. Sortant de son texte, le pape François a tourné ses pensées vers toutes ces familles qui n'ont pas de maison, qui ne l'ont jamais eue ou qui l'ont perdue. Il est difficile, a-t-il lancé, de faire vivre une famille sans avoir une maison, d'où ce nouvel appel.
In questi giorni di Natale.
En cette période de Noël, je vous invite tous, individus, structures sociales, autorités, à faire tout ce qui est possible pour que chaque famille puisse avoir une maison.
Possa avere una casa.
Ce dimanche, le souverain pontife avait voulu le placer sous le signe de Saint Joseph, un homme bon, fidèle et juste, confronté à une dure épreuve et qui s'efforce d'accomplir la volonté de Dieu. Commentant l'évangile du jour, il a relevé que Joseph ne s'obstine pas à suivre son propre projet de vie. Il accepte sans amertume la mission que Dieu lui confie et préfère croire en Dieu plutôt que d'écouter les voix du doute et de l'orgueil humain. En renonçant à posséder sa propre existence pour se plier au dessein de Dieu, Joseph devient encore plus libre et il nous montre le chemin. Le pape François a appelé les fidèles à ne pas se laisser empoisonner par des sentiments de haine, de dépit ou d'antipathie.
Après la prière de l'Angélus, le pape Bergoglio a salué les participants à une course de relais en faveur de la paix en Somalie. Et quand il s'est adressé aux dizaines de protestataires italiens rassemblés contre l'austérité sur la place Saint-Pierre, il les a appelés à être constructifs et à repousser la tentation de l'affrontement et de la violence, en suivant toujours le chemin du dialogue. Selon l'AFP, les forces de police italiennes avaient été renforcées aux abords du Vatican par mesure de précaution. Les membres des Forconi, les Fourches, mouvement hétéroclite, regroupant commerçants, artisans, agriculteurs, travailleurs précaires ou étudiants, protestent depuis quelques jours contre l'austérité imposée par le gouvernement d'Enrico Letta. Ce lundi, à la mi-journée, le pape François recevra en audience le cardinal Crescenzio Seppe, archevêque de Naples, le diocèse qui a offert cette année la crèche de la place Saint-Pierre, inaugurée traditionnellement avant la messe de la nuit de Noël. Les fidèles et les touristes du monde entier pourront admirer ces jours prochains cet ensemble artistique réalisé par un atelier d'artisans napolitains qui jouissent d'une grande renommée dans ce domaine. Un motif de joie et de satisfaction pour la ville de Naples, accablée et humiliée par de nombreux et graves problèmes sociaux, mais qui possèdent des richesses souvent méconnues. 16 bergers, vêtus de costumes typiques napolitains du XVIIIe siècle, encadreront la scène de la nativité de Jésus replacée dans un paysage traditionnel de Campanie. Les artisans ont voulu miser sur la simplicité, conformément au message du Saint-Père. La crèche géante a été financée en grande partie par des dons de bienfaiteurs, limitant ainsi la dépense de l'État du Vatican. La tradition de la crèche est toujours très vivante à Naples. Les santons, célèbres dans toute la péninsule, s'inspire généralement de la vie réelle du sud de l'Italie. Et toujours ce lundi, le pape François recevra les lettres de créance du nouvel ambassadeur cubain, 16 ans après le voyage historique de Jean-Paul II à Cuba et près de 2 ans après celui de Benoît XVI. Et avant de passer au reste de l'actualité, je vous signale que les messes quotidiennes du pape François dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe sont suspendues en cette période de fête très chargée pour le Saint-Père. Elles reprendront le 7 janvier. Les évêques d'Afrique ont exprimé leur solidarité avec l'Église et la population du Soudan du Sud, théâtre depuis le 15 décembre de violents combats entre factions rivales qui font redouter une guerre civile. Tout comme la communauté internationale, les épiscopats africains sont préoccupés par l'embrasement de la situation dans ce jeune pays, né il y a un peu plus de 2 ans après une guerre d'indépendance sanglante et dont l'intégrité est aujourd'hui menacée. Le secrétaire général de la MECEA, l'association qui rassemble les conférences épiscopales d'Afrique de l'Est, a fait part du soutien des évêques aux populations civiles éprouvées en souhaitant qu'une solution puisse être trouvée au plus vite et que la paix soit rétablie. Dans un communiqué, le département justice et paix de la MECEA exprime pour sa part la tristesse des églises de la région face à cette situation qui prend jour après jour la tournure d'un affrontement ethnique et tribal. Il faut, affirme le texte, arrêter cette escalade qui risque d'avoir des conséquences dévastatrices. Les évêques s'adressent à toutes les parties concernées pour qu'elles trouvent une solution pacifique au contentieux. La MECEA assure enfin le Soudan du Sud de ses prières. Dans la capitale, Djouba, quelques 5000 personnes, dont des enfants, sont actuellement réfugiées dans la cathédrale. En Suisse, la conférence des évêques invite les catholiques à soutenir la traditionnelle quête de Noël en faveur des mères et des enfants de Bethléem. C'est grâce aux dons récoltés que les portes de l'hôpital resteront ouvertes à tous les enfants qui vivent sur le lieu de la naissance de Jésus. Selon les évêques, les chrétiens qui vivent au centre des conflits au Proche-Orient constituent une source de vie. Et en Syrie, selon la télévision d'État, plusieurs personnes auraient été tuées ou blessées par un coup de mortier contre une vieille église de la province de Dera, alors que des bénévoles distribuaient des secours à la population. Les rebelles radicaux seraient à l'origine de cet acte. Les djihadistes contrôlent désormais le village chrétien de Maloula, qui abrite un sanctuaire marial au lieu de pèlerinage pour les chrétiens de toute la région. En France, Philippe Fourgon fait partie des diacres qui œuvrent en monde ouvrier et en milieu populaire. Marié, avec 3 enfants, Philippe Fourgon est délégué de la mission ouvrière dans le diocèse de Metz, dans une région particulièrement marquée par la crise de l'industrie sidérurgique. Il nous raconte sa mission.
Souvent, ce sont les gens qui viennent à moi pour demander un sacrement. Est-ce que tu voudrais baptiser mon fils ? Je connais aussi des jeunes couples qui viennent me demander pour bénir leur mariage. On essaie de faire un chemin avec eux, enfin d'essayer de leur proposer de faire ce chemin vers eux. Le travail d'évangélisation au jour le jour, c'est d'essayer de trouver aussi des lieux où ils peuvent venir prendre la parole. Aujourd'hui, l'Église veut se faire proche de ces gens-là. La CO, l'Action catholique ouvrière, a voulu rencontrer les travailleurs autour justement des problèmes de la sidérurgie, avec les conflits d'ArcelorMittal, qui puissent dire un petit peu ce qu'ils vivaient au plus profond de leur vie. Les gens, avec leurs mots à eux, ont pu exprimer aussi d'une certaine manière leur foi, ce en quoi ils croyaient.
Quelle est la particularité de la diffusion du message de l'Évangile vers un milieu ouvrier ?
Je pense que c'est d'abord qu'on puisse les écouter. L'Église, elle a à se faire proche de ces gens qui sont parfois très éloignés, qui redemandent à approfondir un petit peu ce en quoi ils croient et puis aussi donner un sens à leur vie. Recevoir la parole humaine, c'est aussi l'entrecroiser avec la parole de Dieu. Et je crois que cette parole de Dieu, elle est déjà ancrée dans la parole des plus petits. Je vois que les gens ne désarment pas devant les problèmes de licenciement, de chômage, dans leur engagement de tous les jours. Ils veulent continuer à croire que c'est possible de retrouver du travail. Les gens ont besoin de se retrouver pour se dire des choses, pour s'épauler. Il y a toujours des germes d'espérance qui pointent. Alors, ce qu'on a semé, nous ne savons pas ce qui va germer. Comme le pape François nous dit, vivre les périphéries, aller vers les plus petits, à la périphérie, pour justement, c'est une bonne nouvelle que nous annonçons en tant que aussi diacre, nous puissions la faire vivre là où nous sommes.
Philippe Fourgon, diacre en monde ouvrier et en milieu populaire, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. deuxième volet de notre entretien avec Dominique Lambert, professeur à l'Université de Namur en faculté des sciences et en faculté de philosophie et lettres. Dominique Lambert est en effet à la fois un physicien attiré par la biologie, la cosmologie et les mathématiques, un philosophe qui s'intéresse à l'épistémologie et à l'éthique et un théologien. Dans ce second volet, il va nous parler de ses recherches sur le robot et le cyborg et de sa réflexion philosophique et théologique sur la profondeur de l'homme en rapport avec ses recherches. Il est interrogé par Catherine Aubin.
Dominique Lambert, parmi vos champs de recherche, il y a un champ de recherche que vous affectionnez particulièrement qui est le robot et sa place et son articulation avec l'humain. Qu'est-ce que l'homme au milieu justement de cette recherche sur le robot et sur le cyborg ?
Alors cette question m'intéresse d'une certaine manière parce que ces deux courants, par contraste, font apparaître ce qui est la nature de l'homme. Par exemple, bien entendu, dans le cyborg, il y a l'idée de l'homme qui crée une technologie pour, disons, alléger son travail, pour remédier à des problèmes de santé, etc. Il y a cet aspect de maîtrise, de créativité, etc. Mais dans la mesure où on augmente tellement l'homme que, dans le fond, l'homme disparaît sous la technologie, où on poursuit seulement l'idée d'une maîtrise totale, ou d'une certaine manière, on pourrait penser à un fantasme de puissance, de surpuissance, grâce à l'augmentation de l'homme, alors dans le fond, on sent l'homme diminuer. Parce que si l'homme est, bien sûr, capacité de maîtrise, de créativité, d'innovation, l'homme se voit dans la capacité de renoncer à la puissance, à la maîtrise, etc. On dira qu'une attitude est humaine quand justement on peut mettre un frein, une barrière à la puissance. Il y a dans l'homme cette coexistence de cette capacité de maîtrise et cette capacité de renoncer à la maîtrise pour faire place aux vulnérables, aux fragiles. Et ça m'a toujours vraiment étonné de voir qu'à la fin du livre sur l'homme, le fameux livre de Darwin sur l'homme, la filiation humaine, il y a une remarque sur le fait que la partie la plus noble de l'homme, sa nature, c'est justement de mettre des barrières à la sélection naturelle et de faire place aux lois pour les pauvres, aux hôpitaux pour les malades, etc. Donc il y a quelque chose que même le non-croyant pourrait voir, donc ce n'est pas spécifiquement, on pourrait dire, lié directement à une révélation, c'est le fait que l'homme se montre aussi et peut-être surtout dans sa capacité de faire place à la faiblesse, de faire place aux fragiles. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question de la technologie, de la robotique, c'est ça. Quelles sont la portée et la limite de la robotique ? Je ne suis pas du tout technophobe et il serait dangereux de l'être, sinon on devrait renoncer à tous les moyens technologiques. Donc la technologie est au service de l'homme. Mais qu'est-ce qui limite ou qu'est-ce qui guide la création technologique ? C'est justement toujours la réintroduction de cet espace qui d'une certaine manière, donne de la place à ce qui est vulnérable, ce qui est fragile, ce qui n'est pas nécessairement la force, etc.
Et dans l'autre courant dont vous parliez, il y a d'autres dangers aussi.
Alors dans le courant de l'humanisation, entre guillemets, des robots, il y a bien sûr le gros danger de conférer de plus en plus à des machines des pouvoirs de décision qui n'appartiennent qu'à l'humain.
Or, on pense par exemple aux drones.
Oui, c'est ça. Donc c'est devenu aujourd'hui un problème majeur dans les questions de sécurité et de défense.
Et d'éthique.
Et bien entendu, la tendance à conférer à des machines le pouvoir de tuer. C'est même un problème. Donc il y a les problèmes de sécurité et de défense, mais c'est aussi des problèmes dans le domaine financier où des robots dans les trading à haute fréquence, donc des transactions boursières, où on fait 100 000 transactions boursières à la seconde, des machines capables de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie économique et sociale mondiale, avec des risques de crash, etc. Dans le fond, là, une telle fascination par rapport aux machines que l'homme en viendrait à conférer un pouvoir de décision en abandonnant quelque part ce qui fait le propre de l'humain. Alors on pourrait dire, mais où se voit le propre de l'humain ?
Eh bien, alors oui. Où est la profondeur de l'homme ?
Oui, justement, on voit cette profondeur de l'homme dans la capacité de pouvoir décider avec prudence. Dans certains cas, dans certains dilemmes moraux, la machine ne fait certainement pas mieux que l'homme. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant aujourd'hui de voir que dans la question des dilemmes, et dans le fond, les questions éthiques profondes sont des questions qui sont liées à des dilemmes, la machine ne fait pas mieux, mais on voit que l'homme, là, a toute sa place. Car l'homme va décider avec cette prudence qui, justement, transgresse les lois de la technologie pour faire place au pardon, pour faire place au refus de maîtrise, pour redonner sa chance à l'acteur économique ou militaire qui est devant soi. Et ça, c'est d'une certaine manière rejoint la grande tradition de la phronésis aristotélicienne ou de la prudence thomiste, le jugement de prudence. Et j'avais été fort frappé de voir que des juristes, qui ne partagent pas du tout ma foi, mais retrouvaient ce sens en disant « oui, les robots joueront de plus en plus un rôle important, mais dans le domaine juridique, ils ne parviendront pas à prendre toute la place, car dans la décision juridique, il y a quelque chose qui permet toujours de peut-être d'aller au-delà du cadre strict légal pour permettre une réconciliation, pour permettre des choses que la norme stricte ne permettrait pas, mais qui permet de redonner de la vie à ceux qui seraient exclus du système, etc. Et donc, je pense que là se voit l'humain. La machine est au service de l'humain, mais la machine ne peut pas, d'une certaine manière, prendre ces décisions créatives que l'homme peut prendre, parce que l'homme est probablement une réalité profonde qui peut faire place à quelque chose qui n'est jamais simplement le produit d'un calcul, d'un algorithme, de normes strictes, mais qui d'une certaine manière est une réalité profonde au-delà de tout cela.
Alors Dominique Lambert, dans quelques jours, ce sera Noël et on vient de parler de la profondeur de l'homme, on vient de parler du sens de l'homme. Est-ce que finalement scientifiques, philosophes, biologistes, théologiens ne se retrouvent pas tous sur le mystère de l'origine de l'homme? Est-ce que finalement à Noël, nous redevenons frères parce que là on touche pendant quelques heures le mystère de notre origine?
C'est tout à fait exact. Le mystère de notre origine et le mystère de l'humain en tant qu'il est une réalité profondément incarnée, mais en même temps avec une profondeur qui, dans le fond, ne peut pas se comprendre seulement en restant au niveau de l'empirique. Il y a ce mystère à la fois d'une réalité profondément enraciné dans le monde, mais qui, d'une certaine manière, le dépasse toujours. L'homme passe infiniment l'homme, disait Pascal. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance et en même temps de la profonde incarnation.
Alors, on parle de profonde incarnation. Il y a un mot qui n'est pas encore apparu dans tout ce que vous nous avez dit, Dominique Lambert, qui est le mot tout simple de tendresse, d'amitié, d'amour. Parce que si l'homme est l'homme, c'est aussi parce qu'il y a cette composante-là.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me frappe dans le monde scientifique. On pourrait dire que la science est un des lieux uniques peut-être au monde où les gens peuvent se retrouver, indépendamment de leurs convictions politique, religieuse, philosophique, pour ensemble chercher une vérité. Et ce qui m'a toujours frappé en science, c'est que c'était un des lieux où on pouvait voir coexister des personnes qui ne se rencontreraient jamais. Et la science, d'une certaine manière, montre qu'une profonde amitié, une rencontre est possible dans ce même chemin d'une recherche exigeante de la vérité. Et donc, c'est vrai que quand on regarde le fonctionnement des communautés scientifiques, on pourrait se dire, mais là on voit des choses qui sont très belles. C'est un facteur d'unité. Il suffit de regarder la cafétéria du CERN à Genève, cette cafétéria qui est située au milieu, pourrait-on dire, de l'accélérateur de particules. Cette cafétéria est le lieu de rencontres humaines, d'amitié, autour de cette recherche des fondements de la matière. D'une certaine manière, la rencontre de la science, de la foi, par la médiation d'une réflexion philosophique, est pour moi tout à fait possible. Mon expérience m'a prouvé que, tout en respectant pleinement les acquis des sciences, on peut progresser dans une découverte de la foi. Les deux, d'une certaine manière, peuvent s'alimenter l'une l'autre. Pour moi, c'est l'optimisme qui m'anime, en croyant que, dans le fond, par ces deux chemins, il y a quelque chose de la vérité ultime qui se donne à nous. c'est Dieu lui-même qui anime toute recherche de la vérité. C'est lui qui est au cœur de notre recherche.
Merci Dominique Lambert.
Merci.
C'était Dominique Lambert, professeur à l'Université de Namur. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bonne semaine à tous.